Bonjour. Le MNLE 06 est de retour donc sur Agora Côte d'Azur. Gérard Piel et Denis Laspeza, on va s'entretenir des questions d'environnement, en particulier pour cette émission, donc ce qui s'est passé au Texas il y a maintenant quelques jours et qui interpelle, je pense, tous les femmes et tous les hommes qui sont férus d'environnement et d'écologie. Je rappelle que le Texas, c'est 29 millions d'habitants. C'est un État qui fait partie des États-Unis, donc à la frontière du Mexique. Que le climat du Texas varie entre des zones arides et des zones subtropicales. Que le Texas représente quand même 8% du produit intérieur brut des États-Unis. C'est le deuxième État en matière de puissance économique, donc c'est pas rien. On y exploite du pétrole et du gaz. Cet État est dominé par les républicains depuis des décennies, sauf qu'aux dernières élections pour le président des États-Unis, Donald Trump est repassé au Texas de quelques milliers de voix. Donc c'est un État qui a appliqué pendant toutes ces décennies une vraie politique capitaliste de privatisation de tout ce qui pouvait être de près ou de loin public. Et je ne vous parle pas du fameux mur qui protège les États-Unis des invasions d'Amérique du Sud, qui est en grande partie sur le Texas. Donc Denis, qui a travaillé sur cette question, va peut-être nous expliquer comment une telle puissance économique a pu se retrouver sans énergie, sans électricité, pendant 4 jours. Comment des habitants de cet État ont reçu des factures électriques de 16 000, 17 000 dollars, donc à peu près l'équivalent en euros. Qu'est-ce qui s'est passé donc pour qu'il y ait aussi des dizaines de morts de froid? Il y a bien évidemment eu une vague de froid et de neige dans cet État, mais comment le pays le plus riche du monde peut avoir en son sein la deuxième force économique de ce pays qui se retrouve comme ça plongé dans le noir et dans le froid? Donc Denis Laspeza, je te laisse la parole et tu vas peut-être nous expliquer comment ce genre de choses peut arriver.
Oui, merci Gérard. Bonjour aux auditeurs d'Agora Côte d'Azur. Oui, effectivement, ce qui est arrivé au Texas nous interpelle et nous demande d'étudier avec précision les raisons de ce qui s'est passé, parce que l'actualité énergétique en France est là. On est à la croisée de prises de décisions qui vont certainement, si elles vont dans le sens où le veut le gouvernement, si elles vont dans le sens où le veut la Commission de Bruxelles, impacter fortement les Français, les usagers, à travers des augmentations de tarifs importantes, mais aussi vont impacter le service public et par là même vont impacter les entreprises qui utilisent le courant. Donc ce qui s'est passé au Texas est très important. Et très important d'abord pour les habitants du Texas. Hein, c'est quand même 5 millions de foyers qui ont été touchés par ces coupures. Alors la première des raisons, c'est le temps, bien évidemment. Hein, des températures anormalement basses, mais qui ne sont pas totalement exceptionnelles. C'est à peu près des températures que les Texans peuvent retrouver à peu près tous les 10 ans. Donc on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui arrive tous les 100 ans, tous les 200 ans. Et même si c'était le cas, il faudrait se préparer à ça. Est-ce qu'en France, on est préparé à ça? Je dirais oui, mais je dirais de moins en moins. De moins en moins, c'est-à-dire que depuis la loi de nationalisation de 1946, la centralisation de la production, du transport et de la distribution de l'énergie, je parlerai que de l'électricité, mais on refera peut-être une émission sur le gaz, mais le gaz est un peu en parallèle à l'électricité. Donc depuis cette loi, on avait de quoi satisfaire la demande des usagers aussi bien que la demande des industries, et notamment les industries qui consomment énormément d'électricité. Hein. Depuis les années 2000, avec l'arrivée de les lois du marché, de la concurrence, tout ça fait que le service public n'est plus aussi bon, je dirais, qu'il était à la sortie de la guerre. Et aujourd'hui, on peut très bien. Alors, on a passé cet hiver. Hein, on aurait pu très bien avoir des températures très basses et se retrouver devant un blackout.
Et pourtant, le Texas, c'est un État qui a développé les énergies renouvelables de façon très très importante, qui produit du pétrole et du gaz. J'ai dit tout à l'heure, y compris du gaz de schiste, puisque Trump avait remis cette exploitation à jour, quoi. Et donc, comment, avec toutes les énergies renouvelables, on aurait pu penser qu'un État de cette importance pouvait se passer de transfert d'électricité qui venait d'autres États. On sait très bien qu'en France, par exemple, quand il y a des baisses de... Quand le froid est en train de progresser, quand il y a beaucoup une demande d'électricité forte, il y a des accords qui permettent soit d'en importer des pays voisins, soit aussi le contraire, c'est-à-dire que la France importe de l'électricité dans les pays voisins comme l'Allemagne, l'Italie, etc. Entre parenthèses, l'Allemagne qui a supprimé le nucléaire importe de l'électricité de France qui est lui-même produit par les centrales nucléaires. Donc comment dans cet état on a pu en arriver là alors que, je le répète, les énergies renouvelables ont été, c'est l'état américain où elles sont le plus développées.
Oui, actuellement c'est quasiment plus de 20% d'électricité du Texas qui est produit par énergie renouvelable. Bon, on dira principalement par les éoliennes. Hein. Il y a du photovoltaïque, mais principalement par des éoliennes. Alors, il y a tout un tas de choses qui se sont mises en place. Au Texas, on fait confiance à l'énergie éolienne. On est dans une région qui est très ventilée. Donc, on se dit, d'abord, les entreprises font énormément de bénéfices sur ces énergies renouvelables parce qu'il y a un peu le parallèle à la France. Il y a énormément d'aides publiques qui sont mises dans ces énergies. Donc, c'est des niches aussi, des niches financières. En même temps, on se dit, on est les meilleurs, on est les plus forts, on n'a besoin de personne. Donc, on ne veut rien demander, on ne veut rien donner. Donc, on s'isole. C'est un peu la politique que certains prônent en France. C'est la décentralisation des énergies. Décentralisation des énergies, ça veut dire que à un moment donné, quand on n'est pas le plus fort, tout s'écroule. Parce que, comme tu viens de le dire, Gérard, on n'a pas d'autres moyens à mettre en œuvre. Alors, les énergies, les éoliennes, énergies renouvelables, dépression, le froid qui gèle les pales, on a 0% de production de ces énergies. Ils ont aussi eu quelques soucis dans des centrales gaz, des centrales de production d'électricité à travers le gaz. Là aussi, le gel particulier. Mais là aussi, manque d'entretien, manque de prévision. Donc, on n'a pas envie d'investir pour quelque chose qui peut arriver tous les 10 ou 20 ans. Et bien, quand ça arrive, et bien, on n'a pas les barrières techniques pour empêcher le gel. Et ils ont encore aussi un petit peu de nucléaire qui a pu fonctionner et qui a pu aussi avoir quelques petits problèmes. Donc, décentralisation, c'est-à-dire qu'on est seul... On ne peut pas faire des échanges avec les États voisins. Eh bien, la France, aujourd'hui, tu l'as dit, il y a des échanges qui se font au niveau européen. Je dirais que c'est une bonne chose. Sauf que si demain, on est dans une situation météorologique où les éoliennes ne fonctionnent pas, elles ne fonctionneront pas en Allemagne, ni en France, ni en Suisse, ni ailleurs. Donc ça veut dire que là, la solidarité, elle va être difficile à mettre en œuvre dans la mesure où tout le monde aura besoin de courant.
Il y a aussi une chose qui, moi, m'a un peu choqué, c'est qu'au Texas, je ne sais pas combien de dizaines de sociétés commercialisent l'électricité. C'est-à-dire que la privatisation a atteint un tel niveau que pratiquement, dans chaque grande ville, il y a plusieurs sociétés qui apparemment devaient jouer la concurrence. Mais je répète, des factures à 16 000 ou 17 000 dollars, on voit bien que la concurrence n'a pas joué. Et comment la multiplication de ces sociétés, que l'on peut, pour l'instant, elle est maîtrisée en France, mais l'on voit très bien que petit à petit, on se retrouve avec, y compris des sociétés qui font du démarchage forcé. On a vu qu'il y a eu dernièrement des procès. Comment la multiplication des sociétés, plutôt que de faire baisser les prix et d'organiser correctement, dans le cadre du marché, de la concurrence, la distribution d'électricité, va au contraire compliquer les choses, complexifier les choses et faire que ils se sont retrouvés au Texas comme ça pendant plusieurs jours. Et effectivement aussi les gens qui sont les plus en difficulté, pas les très riches, mais les pauvres et les gens qui ont moins de moyens, sans électricité, quoi.
Oui, c'est cette décentralisation hein, que certains appellent fait la, une multiplication d'entreprises. C'est un peu ce qui se passait avant 46. Il y avait 200 entreprises de distribution qui étaient à travers la France. Chacun avait son réseau. Il n'y avait pas de normalisation. En gros, excusez-moi le terme, mais c'était le foutoir. Et là, effectivement, c'est le foutoir. C'est le foutoir au Texas. Dès qu'il y a un petit grain de sable, eh ben, ça fait tout basculer. Qui dit décentralisation dit multiplicité de petites entreprises qui ont qu'un intérêt, c'est faire rentrer de l'argent. Mais en même temps, quand on distribue de l'électricité, quand on distribue de l'eau ou quand on distribue un produit comme ça, on doit se préoccuper de l'entretien des réseaux. Et là, il y a une espèce de société publique qui en réalité fait l'arbitre entre toutes les sociétés. Et cette espèce de société publique qui serait chargée de l'entretien des réseaux n'a aucun moyen de le faire. Donc, pas d'entretien de réseau. Chacun essaye de récupérer le maximum de fric. Chaque entreprise n'est pas là pour les usagers. On en arrive à ce point-là. Et on en arrive à des choix de production d'électricité qui ne sont pas les bons choix, qui ne sont pas des bons choix techniques, mais qui sont simplement des choix dictés par l'intérêt financier. Et ça, l'énergie, et notamment l'électricité, et principalement en France, on a connu, après la loi de nationalisation, on a connu l'électricité au prix coûtant. C'est ce qu'avait dit Marcel Paul, ministre communiste, qui avait dit l'électricité, ça doit être au prix coûtant et de la meilleure qualité possible. C'est les deux raisons qui ne sont plus aujourd'hui et qui pourraient le redevenir ou qui pourraient s'aggraver avec le projet Hercule en France, quoi.
Donc oui, le projet Hercule, c'est d'une certaine manière un jalon, une marche pour aller vers le genre de gestion de l'électricité privée qui se passe actuellement au Texas, mais aussi dans d'autres États des États-Unis, mais aussi dans d'autres pays qui ont aujourd'hui complètement dénationalisé la production électrique et la distribution et la gestion. Et aujourd'hui, c'est au plus offrant. Et donc, c'est les gens qui ont les moyens, eh bien, ils auront du courant, comme ils auront de l'eau, comme ils auront les besoins essentiels. Et puis, les pauvres, soit on leur distribuera des tickets, c'est ce qui est en cours, en tout cas ce qui se prépare en France, c'est-à-dire qu'on aura des bons pour l'énergie, des bons pour l'eau, voilà. Et quand on aura utilisé la plus grande partie de ces bons, eh ben, il n'y aura plus d'énergie, il n'y aura plus d'eau. Donc c'est cette société-là, le MNLE la combat, et l'exemple du Texas, je crois, devrait faire réfléchir vraiment les populations et les citoyens. Nous sommes dans un moment où il y a beaucoup de difficultés au niveau de la santé, on le voit avec ce qui se passe dans ce pays depuis un an. Entre guillemets, on peut dire que heureusement, il est resté un secteur public de la santé avec les hôpitaux, même s'il a été attaqué et si les services ont été fermés et des milliers de lits ont été supprimés. On peut imaginer ce qui se passerait s'il n'y avait pas ce service public et si donc la santé serait simplement en fonction des moyens financiers des gens. Voilà pour la première partie de notre émission, donc sur Agora Côte d'Azur, et que l'on remercie pour cet accueil et que l'on retrouve avec beaucoup de plaisir depuis les quelques mois d'interruption en cause du Covid. On va avoir une petite pause musicale et puis on reprendra avec Christian Pellicani, président national du MNLE. Et là, on va évoquer le forum alternatif mondial de l'eau que le MNLE prépare avec d'autres associations. À tout de suite pour cette deuxième partie.
Changer les ombres, on peut juste les éclairer jusqu'à ce que le soleil tombe, lassé de nous réchauffer. Et dans nos envies de plage, du VA et du VB, j'en vois quelques-uns qui nagent vers ce qu'on a déjà coulé. Mais s'il est bon qu'à des puces, c'est que là, pas le bon collier. La beauté, tu sais, ça s'use, c'est comme ton premier baiser. Le monde a changé, il s'est déplacé. Quelques vertèbres. Qui te font rêver et qui vendent leurs culottes pour un peu de télé. Et toute ma grande famille a le cœur tout chamboulé. Tant qu'il y a quelques partages et du vide à écouler, ils iront sur la banquise passer quelques mois d'été, photographier quelques plages pour un peu de monnaie. Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Oh, était l'ostéo, caché dans son dos, attendant la fièvre. Mais le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres.
Eh bien, rebonjour, vous êtes toujours à l'écoute d'Agora Côte d'Azur, l'émission naturellement, l'émission du MNLE 06, Denis Aspesa, Gérard Piel, et on sera en compagnie, comme on vous l'a annoncé, de notre président du MNLE, Christian Pellicani. Alors, on va parler dans cette deuxième partie de l'émission du Forum Alternatif Mondial de l'Eau, ce que l'on appelle le FAM, donc de l'édition 2021, qui va démarrer ses travaux à partir de mars. À l'heure de l'émission, pour l'instant, ce qui est prévu, c'est les débats et les conférences ne se feront pas en physique. Dans l'état actuel de la crise sanitaire, on prévoit tous ces débats en visioconférence. Alors, ce FAM va s'organiser sous forme d'ateliers, énormément d'ateliers. Gérard, est-ce que tu peux nous proposer avec Christian, parler un peu de ces ateliers du FAM?
Oui, pour l'instant, il y a une quinzaine d'ateliers qui sont prévus, donc essentiellement en visioconférence. Le MNLE et les autres associations eau, biens publics et autres ont prévu donc un dispositif qui permet une participation importante pour débattre, mais aussi pour écouter les conférences qui sont aussi prévues pendant toute la durée pratiquement de l'année, puisque contrairement au forum qui a été organisé par les grandes sociétés qui produisent et qui vendent de l'eau chaque 4 ans et qui devait se dérouler à Dakar au Sénégal, les associations ont choisi de ne pas annuler, mais de continuer de travailler sur la durée sur ces questions. Pour ce qui concerne le MNLE, pratiquement, le Forum mondial alternatif de l'eau serait pérenne et continuera de fonctionner en partant donc des locaux de Marseille, puisque c'est à Marseille que l'on est, installé. Donc, Christian, je vais évoquer quelques-uns des ateliers qui sont prévus et des conférences, et tu peux un peu développer les thèmes. Il y a la question des barrages entre les enjeux locaux et internationaux. Sur cette question, peut-être que Denis pourra en parler aussi, puisqu'il a travaillé par ailleurs sur ces questions-là. Un autre planning des ateliers évoquera la durance et les temps de berre. Je te laisse développer.
Tu veux que j'aille de suite, il n'y a aucun problème. La durance est un des deux berceaux de la naissance de notre association, le MNLE, le Réseau Ménature. Et donc, depuis 30 ans, au moins, on mène des actions pour la réhabilitation de l'étang de Berre, et justement, pour sortir du dilemme où l'eau douce de la Durance qui traverse les centrales hydroélectriques, crée de l'électricité verte, on va dire, qui se jette après dans l'étang de Berre, amène des pollutions par une surreprésentation de l'eau douce dans l'étang. Et donc, c'est un paradoxe que de l'eau douce propre vienne perturber un milieu salé. Et donc, ça a posé d'énormes problèmes. Donc, la Durance et les temps de berre sont intimement liés aujourd'hui par les aménagements qu'on a réalisés dans les années 60, Saint-Denis. Et donc, aujourd'hui, on mène des vastes questions parce qu'on a trouvé des solutions. Il reste encore des aménagements à réaliser, optimiser à la fois la production d'énergie renouvelable, mais aussi que ce territoire complexe où on trouve de l'industrie, l'activité touristique, une forte urbanisation maintenant, de l'aménagement du territoire contraint par le milieu, que cet espace remarquable aussi, ces espaces remarquables, s'inscrivent dans la démarche d'un classement par l'UNESCO au patrimoine mondial. Donc tout ça est remis sur le métier à l'occasion de ce forum alternatif pour permettre d'aller plus loin, de mobiliser encore plus d'énergie pour obtenir ce label. Voilà.
Après, il y a trois ateliers qui sont prévus et je pense que on va passer rapidement parce qu'ils feront l'objet de l'émission du mois d'avril. Donc, qui a peur de la financiarisation de l'eau ? Dans la question marchandisation, monétarisation, quelle efficience ? On voit qu'aujourd'hui, par exemple, l'eau, elle commence à être cotée en bourse en Australie et aux États-Unis. L'autre aspect, donc, c'est les guerres de l'eau auront-elles lieu ? On va, en avril, profiter de l'antenne d'Agora Côte d'Azur pour débattre de la question de l'eau en Palestine, puisqu'on a un ami, Ziad Metou, qui est à Gaza et qui nous a envoyé tout un texte sur ces questions. Et puis, le troisième sujet que l'on débattra en avril, c'est la création des régies publiques de l'eau. On évoque les situations à Bordeaux, Lyon et en PACA, mais il y a aussi d'autres questions qui se posent avec les délégations de services publics, avec par ailleurs les projets de gestion de l'eau en coopérative, ou même un grand service public national de l'eau qui permettrait d'avoir une péréquation des tarifs. Donc ça, on le traitera au mois d'avril. Il y a une question qui me semble importante, c'est l'atelier sur le déficit hydrique. On voit bien qu'avec le changement climatique, cette question se pose, donc en particulier pour le littoral, avec l'érosion des zones urbanisées en eau potable. Est-ce que sur cette question, tu peux un peu développer ?
Sur le déficit hydrique, on a un vrai problème aujourd'hui. C'est là, avec les changements du climat, il n'y a pas un changement climatique, il y a des changements qui se conjuguent selon les régions en fonction des modifications de pluviométrie, en fonction de... Parfois, se heurte à des aménagements locaux, mais pas toujours. On le voit avec ce qui s'est passé dans la Vésubie, dans votre département. Précipitation non habituelle et dense sur quelques heures a pu créer une vague, a balayé des vallées entières. Donc on a à la fois sur représentation de l'eau sur certains territoires et puis un appauvrissement de la pluviométrie qui fait qu'on risque d'avoir, selon où on est sur la planète, un nouveau mouvement migratoire. Et donc, migratoire lié à l'absence d'eau, mais aussi que la misère que ça peut entraîner, les difficultés de vie. Voilà. Et on a comme ça des gens qui aujourd'hui travaillent sur différentes problématiques. Et notamment, on aura l'occasion de ce forum, j'en profite pour le dire, qui sera multipolaire. Il y aura d'autres initiatives en France, en Europe, peut-être ailleurs, qui vont se conjuguer les unes aux autres. Mais vu de Marseille, on a un point dans ce réseau multipolaire de débat, où on va par exemple travailler, nous on a la Méditerranée à nos portes, les uns les autres, on va travailler sur la place de l'eau et l'évolution de la place de l'eau dans les îles de la Méditerranée avec un universitaire corse sur Orsini, qui va nous apporter des éléments à la fois d'état des lieux, mais aussi comment, avec Antoine Orsini, on peut envisager les réponses aux changements qui vont immanquablement apporter des contraintes. Toutes les îles de la Méditerranée, selon la pluviométrie, auront des problèmes. Donc il y a la pression de la maîtrise quand il pleut de cette eau, c'est-à-dire barrage ou pas, réserve d'eau, mais aussi qui gérant problématique liée à la culture, à l'agriculture. Voilà. Donc cet atelier est très important, en tout cas pour les gens de la Méditerranée, et qui fera très bien le lien avec les pays du pourtour de la Méditerranée, c'est-à-dire la Grèce, les pays africains, le nord africain, mais aussi la Palestine, parce qu'effectivement, on est de l'Espagne à la Turquie, en passant par la Palestine, Israël, l'Égypte, les pays d'Afrique du Nord, on a un destin commun autour de la Méditerranée où il y a de l'eau salée qui est polluée parfois, et en même temps, on a une pluviométrie qui pèse sur le quotidien. Voilà. Donc on va aborder tous ces sujets qui posent la question de l'international, mais aussi du local. Quelles réponses on peut apporter aujourd'hui sur les techniques agricoles ou autres, voilà.
Donc, toujours sur les questions hydriques, un atelier va travailler sur l'accaparement donc de la ressource hydrique par le privé. On le voit déjà en Australie ou en Californie, où des forages profonds donc sont en train d'être installés pour simplement mettre de l'eau en bouteille et la vendre à des tarifs prohibitifs. Donc il y a eu par le passé dans les Alpes des tentatives d'accaparement des sources par des sociétés privées, tout simplement en achetant les terrains où les sources existent depuis toujours, à partir de là, privatiser carrément la ressource en eau, quoi. Donc cet atelier me semble aussi important. Par contre, un des ateliers qui sera aussi, je pense, très suivi, c'est celui qui concerne la fonte des glaces des pôles et aussi des glaciers, puisque là aussi, nous y sommes confrontés, quoi.
L'actualité, là, on est vraiment dans le quotidien. Ces jours-ci, une fusée russe a mis en place un satellite pour observer, et travailler et analyser l'évolution de la fonte de la calotte glaciaire. Parce que même si certains, comme le président russe, se réjouissaient il y a quelques années du réchauffement climatique, parce que ça ouvrait à la fois des voies maritimes plus courtes pour aller d'un hémisphère à l'autre, mais aussi le dégel des terres en Sibérie apparaissait comme une nouvelle Eldorado en termes de recherche gazière, pétrolière et autres. Il n'en reste pas moins que là on est aussi avec un danger de monter des eaux, on a un danger avec le permafrost qui se réchauffe, c'est les terres gelées qui se dégèlent, apparaissent des virus, des problématiques nouvelles. Donc on est avec cet atelier-là, qui est ouvert à la fois, reste ouvert sur la direction des scientifiques qui travaillent au quotidien sur ces questions, mais aussi des gens qui s'inquiètent de l'érosion du littoral, des gens qui s'inquiètent des réserves d'eau douce, parce que ce sont pour le moment des millions de mètres cubes, mais le problème, c'est que on voit qu'à un siècle, l'activité humaine a bousculé beaucoup plus de choses que parfois la nature a mis des milliers d'années à le constituer. Voilà, on est là-dessus, on est sur une échelle des temps qui est beaucoup plus longue et courte en même temps. Ça va être à la fois passionnant mais intéressant, parce que ça peut déterminer des choix à long terme que notre société humaine devra faire.
Je passe rapidement sur un atelier donc qui concerne l'accès pour tous à la ressource, parce que il fera partie de notre émission du mois d'avril. Donc je rappelle simplement que Daniel Mitterrand en 2012 avait porté l'accès pour tous de la ressource, c'est-à-dire avec les premiers litres d'eau gratuits et toute une série de propositions. Est-ce que on verra au mois d'avril quelles actions ont été développées pour aller plus loin que cela, quoi. Et on le verra évidemment en écoutant Agora Côte d'Azur, puisque notre émission est retransmise par Agora et sur Internet. Il y a une autre question qui se pose en particulier dans le sud du pays, mais peut-être partout en France, c'est la vétusté des réseaux d'eau et d'assainissement. On le subit vraiment quotidiennement. On voit bien que l'entretien et le renouvellement du réseau, quand il a été confié en DSP, en délégation de services publics au privé, n'est pas effectué correctement. Aujourd'hui, la question des moyens financiers pour rénover ces réseaux, pour les mettre aux normes, si j'ose dire, va se poser de façon très forte. Et qui va payer, quoi ?
Là, on est sur le même débat de fond, parce qu'on voit bien que ce qu'on appelle le prix facturé aux consommateurs, qu'on soit en zone rurale ou en zone urbaine, aujourd'hui, dans notre pays en tout cas, est fabriqué à la sortie de l'usine, c'est-à-dire de potabilité. Et on a eu deux phénomènes. On le voit dans les grandes villes comme Marseille, par exemple, où toute une partie des gens se sont ingéniés à supprimer deux réseaux. C'est-à-dire l'eau brute qui alimentait les fontaines, les jardins, les parcs, l'eau pour nettoyer les rues. Donc on a supprimé ces réseaux qui parfois faisaient plusieurs centaines de kilomètres pour tout regrouper dans un seul réseau, qui est le réseau d'adduction d'eau potable. Ce qui fait qu'on lave les rues avec de l'eau potable, on arrose les jardins avec de l'eau potable, avec souvent un danger par rapport au type de traitement qu'on applique à l'eau pour la rendre potable. Quand c'est un traitement à l'ozone, on peut s'en contenter, c'est pas trop grave, mais chaque fois qu'on augmente la teneur en chlore, quand il y a des problèmes graves, on transforme la potabilité, on la traite différemment, ça pose des problèmes lourds, très lourds. Et parallèlement, comme on fait le prix à la sortie des usines de potabilité, eh ben, les fuites d'eau, c'est tout du pain béni, quoi. Ça permet de facturer après aux collectivités des mètres cubes qui sont perdus et qui retournent dans les nappes. Alors qui retournent dans les nappes avec plus ou moins de bonheur, mais en même temps, il y a un prix au mètre cube aujourd'hui qui est quand même dopé. Et parallèlement, les fuites d'eau sont souvent liées à ces fameux réseaux qui ne sont pas entretenus. Et moi, je fais partie de ceux, en tant que président du MNLE, mais militant avec beaucoup d'autres personnes, notamment les gens de Haut Bien Commun France et PACA, à dénoncer les opérations qui ont été faites à l'époque, parce que quand on passe de la régie en DSP, les délégataires mettent en place des fonds de garantie pour renouveler les réseaux. Et ces fonds, là, c'est de l'argent, ils se sont évaporés à un moment donné plus vite que l'eau, parce qu'ils ont été captés par les concessionnaires pour faire autre chose et transformés en contrat d'assurance. Et on voit bien que souvent, quand une commune passe de DSP en retour en régie, il nous laisse un paquet cadeau qui n'est pas du tout confortable parce qu'il faut reprendre les réseaux. La quantité de communes dont les réseaux sont mal est très importante. Donc on aura un travail à la fois avec des techniciens. Il y a des techniques aujourd'hui de visite des réseaux qui sont très au point. Et avec la technologie, on peut aller très loin aujourd'hui pour l'assainissement et l'eau, pour étudier la qualité des réseaux. Mais il faut vraiment veiller à ce que ces réseaux-là soient de bonne qualité. C'est un des enjeux très importants. Alors après, ça ne veut pas dire, et ça ouvrira, je pense qu'en avril, on aura le temps d'en reparler, sur la question des régies. La régie peut être aussi une structure de gestion publique qui pour nous est fondamentale, mais malmenée par une mode de décision qui ne tient pas compte de la vie des usagers, des associations, et qui parfois se contente d'appliquer la loi sans permettre un vrai débat et une co-décision pour la façon de gérer le réseau et l'eau. Voilà, je pense notamment les réseaux d'eau agricole qui peuvent exister encore dans certaines zones périurbaines. On a plutôt intérêt à ce que les associations de syndicats d'arrosants continuent à exister à condition qu'elles respectent un certain nombre de règles. Donc on a vraiment un grand chantier qui reste toujours ouvert, même dans nos pays d'Europe et en France en particulier. Et c'est pour ça que le débat sur régie, coopérative et autres modes de gestion, je pense qu'on a intérêt à revisiter, et ce sera l'occasion de le faire, tout ce qui existe dans ce pays aujourd'hui, historiquement. Je pense aux associations syndicales d'arrosage, je pense à des traditions de gestion de l'eau et des modes opératoires. Voilà, tout ça est à remettre sur la table, et je rappellerai quand même que certains avaient créé en son temps en province de Côte d'Azur, et c'était un exemple, l'établissement public régional de l'eau qui permettait de travailler ces questions et qui a été stoppé en vol par la nouvelle majorité régionale. Voilà, c'est peut-être quelque chose à remettre sur le métier pour le retravailler et le rendre d'actualité.
Alors, pour terminer cette évocation des ateliers, bon, on n'a pas tout cité, mais un me semble très important parce que le 22 mars donc sera la journée internationale de l'eau. Et la question de l'accès à l'eau, donc à travers les fontaines d'eau potable, à travers les toilettes, à travers les douches publiques dans les villes, est toujours posée dans notre pays de façon très importante. Elle n'est vraiment pas respectée dans les grandes villes. Et évidemment, cela concerne la partie de la population la plus pauvre qui n'a pas accès. On le voit, nous, sur la Côte d'Azur, dans cette zone donc réservée au tourisme. Les personnes qui veulent aller aux toilettes, par exemple, sont obligées d'aller consommer dans un bar, tout simplement parce que les toilettes publiques n'existent pas ou existent en très très peu de nombre. Est-ce que donc autour de ce 22 mars et du Forum Alternatif Mondial de l'eau, il y aura une place réservée à ces questions qui Comme ça, dit rapidement, on voit bien le décalage avec les autres questions, mais qui nous semble à nous, en tout cas, aussi importante.
Alors, déjà, si tu le permets, avec Denis, je veux rappeler à nos auditeurs que ce forum Alternative Mondiale de l'eau veut tourner le dos à la course qui a été faite entre les haltères et les marchands d'eau ou les patrons en général. Fini le temps où on attendait qu'ils organisent quelque chose pour nous organiser nous. Aujourd'hui, à partir de maintenant, le Forum Alternative Mondiale de l'eau 2021, édition Marseille, qui pourra avoir une édition Paris, Lyon, Bordeaux, Nice, se veut un moment permanent de travail en commun et de réseau planétaire et européen pour travailler sur l'eau, pour apporter des réponses et avoir des moyens pérennes aussi bien sur l'espace virtuel Internet que concrètement. Et nous, nous proposons qu'à Marseille, on ait une maison de l'eau à la fin de tout ça qui permettra de répondre au coup par coup à ceux qui mènent l'eau, comme les batailles de l'eau comme en Palestine ou à Dakar de même, aussi en Europe ou en Amérique du Sud ou du Nord. Voilà. Donc, plus de forums simplement miroir de ce que font les patrons ou les capitalistes ou les marchands d'eau. On existe par nous-mêmes et on va développer nos activités. Deuxième point, c'est pour devenir producteur de droits en même temps qu'on mène des actions revendicatives, manifestations, informations, formations, devenir producteur de droits pour que les parlementaires de chaque pays, notamment en France, puissent réorienter les textes de bonne manière pour donner de l'espace et de la respiration à ceux qui veulent changer la donne. Et là, de ce point de vue, on participera à la MNE, à la commission parlementaire qui a été initiée par des parlementaires, notamment Mme Panot, qui nous invite à venir plancher à Paris dans quelques semaines contre l'appropriation de l'eau par les majors, quoi, les multinationales. On a besoin d'être producteurs de droits. Et dernier point, sur la façon de faire ensemble, c'est que le 22 mars, journée internationale de l'eau, on va mettre en place un réseau de conférences qui permettra de traiter toutes ces questions en même temps pour donner à voir aux médias en général, mais aussi aux militantes et aux élus et aux associatifs, et notamment on parle à la fois des propositions de solutions, mais aussi la dénonciation de choses. Qui peut aujourd'hui répondre encore, notamment dans le Sud, que pour aller se soulager, parce qu'il y a des besoins humains qu'il faut satisfaire, vous n'avez qu'à aller au bar ou au restaurant. Il n'y a plus de bars de restaurants pour le moment, depuis des mois maintenant, tous les établissements sont fermés. On se rend compte que quand même, les besoins humains restent. Donc on a besoin, dans chaque ville, dans chaque région, de toilettes, de points d'eau, parce que ça fait partie de la vie. Et donc cette journée mondiale de l'eau, elle abordera ces questions. Mais en même temps, je voulais dire à mes éditeurs, ne ratez pas en regardant sur le site d'Agora FM, sur d'autres radios, mais aussi sur le site du MNLE, la liste des webinars, ça s'appelle comme ça, des salons de discussion pour tous ces ateliers. Il y aura un programme. Mais on veut les lancer quand même autour du 22 mars, un peu avant, un peu après, par quatre grands débats, pareil, sur Internet. Un sur l'eau dans les îles de la Méditerranée. L'autre traitera de l'eau au Sénégal, parce que c'est quand même l'endroit où devait se tenir le forum des patrons, des marchands d'eau, qui n'aura pas lieu en tout cas pour le moment, qui est renvoyé. La question de la Palestine, un grand débat aussi, et bien entendu, les biens communs, comment se situe la place de l'eau dans ce débat. Bien commun, commun, voilà, un débat de fond qui pose la question de changer de paradigme économique. Voilà grosso modo la démarche qu'on engage, qui est nouvelle, qui n'est pas du tout habituel. Habituel, on se déplaçait dans les villes, on réservait des salles. Ben là, on va se retrouver dans un autre contexte qui, à mon avis, n'enlèvera rien à la qualité de nos travaux et des actions qu'on pourra mener.
Christian, est-ce que tu peux donner l'adresse du site du MNLE national où on peut retrouver toutes les informations concernant ces débats et ces ateliers? Rappeler que la revue, naturellement, va sortir dans quelques semaines et où elle contient aussi beaucoup d'informations sur le FAM 2021, donc. Et puis, pour ma part, je dirais que donc on donne rendez-vous aux auditeurs à l'émission du mois d'avril pour justement, d'une part, débattre de la question du choix entre les différents modes de gestion de l'eau, et puis, d'autre part, se poser la question et le débat de la problématique de l'eau, donc dans la bande de Gaza que tu as évoquée tout à l'heure en parlant de la Méditerranée. Voilà pour le mois d'avril qui sera, à mon avis, très chargé. Je te laisse donner les derniers détails du site et de Naturellement.
Voilà, je te remercie. Je vous remercie pour votre pugnacité, pour le débat sur ces choses-là. Donc, pour nous joindre, il y a l'adresse mnle@wanadoo.fr, c'est l'adresse internet du MNLE national. Le site internet où il y a déjà une partie qui est consacrée aux femmes 2022 Marseille, c'est réseauhommes et nature.mnle.fr, voilà, c'est le site national dans lequel il y a les comités locaux mais aussi la partie réservée à l'eau. Et puis vous pouvez aussi écrire directement pour avoir des informations à femme.2021marseille@gmail.com. Et donc je dis que femme.2021marseille@gmail.com. Et je tiens à le dire aux auditeurs azuréens et aux autres qui pourraient nous écouter nationalement, puisque Radio Agora une audience qui va au-delà de son territoire, c'est que ce n'est pas une affaire marseillaise, c'est une affaire européenne et internationale, notre débat sur Internet. Et donc c'est Marseille, parce que c'est à Marseille qu'on veut implanter à la fin un lieu dédié à l'eau. Voilà, merci aux auditeurs, merci à vous, et à très bientôt au mois d'avril pour notre prochaine émission.
Voilà, et nous saluons aussi les auditeurs d'Agora Côte d'Azur, et nous leur donnons rendez-vous pour le mois d'avril pour la suite du Forum Alternative Mondiale de l'eau. Merci, à bientôt.